Voilà. C'est le, vous savez, le, vous connaissez les versets que vous avez donnés les fois précédentes? Ce serait bien de les connaître par cœur. Je sais que quelques-uns le connaissent par cœur. 1 Timothée 3, 15. Oui. Voilà, ça c'est quelque chose de très très important. Hein. N'oubliez jamais cette vérité-là. Hein. C'est l'Église, l'Église. C'est le. Vous avez des gens qui parlent mal de l'Église. L'Église de Dieu, c'est pas ces personnes qui contestent, qui sont rebelles, qui parlent mal, qui vivent une vie dissolue, ou qui sont légalistes, ou qui prennent la liberté qui est en Christ comme un prétexte pour vivre selon la chair. Mais l'Église du Dieu vivant, elle, c'est autre chose. Et c'est parfois un groupe de chrétiens dans un rassemblement. Hein, je ne parlais pas cela à une église. C'est un groupe de chrétiens dans un rassemblement, et même parfois c'est une personne qui est là et qui souffre d'un état de choses. Je me rappelle d'une dame qui était née de nouveau. Elle est arrivée dans une vieille, 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 vieille église protestante de réforme et tout ça, dans un village du Gard, où il y avait une église comme une cathédrale romaine. C'est vraiment un village de 2000 ou 3000 habitants. Donc pour vous dire qu'à l'époque, une certaine époque, il y avait et là, il y avait une cinquantaine de personnes quand même. Et elle s'est rendue compte qu'ils étaient tous inconvertis. Le pasteur compris. Et puis un jour, quand même, elle a trouvé une dame d'un certain âge qui lui semblait bien qu'elle était née de nouveau. Voilà. C'est quelque chose, hein. C'est une tristesse. Et aujourd'hui, ils peuvent en faire un musée, hein, parce que ça doit dater de une quarantaine d'années. La dame, est sans doute décédée depuis longtemps. Mais c'est d'une grande, grande tristesse. Mais Dieu a dit, le Saint Jésus a dit qu'il, c'est le verset suivant, qu'il bâtirait son église. Hein? Quelqu'un peut réciter ce verset? C'est Matthieu 16, 18. Voilà. Vous prenez ce verset comme une promesse de Dieu, inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. C'est le Seigneur a dit, le Saint Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit, c'est son église. Et ensuite il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'ennemi peut rager, rugir, faire tout ce qu'il veut. L'Église restera toujours là. Et elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, si quelqu'un parle mal de l'Église, rappelez-vous, c'est l'Église du Dieu vivant. Et combien de fois j'ai été obligé de parler à des personnes et de dire non, l'Église dont tu parles, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est ce que les personnes qui vont se réunir tout à l'heure pour adorer, c'est l'Église du Dieu vivant. Et le frère et la sœur que vous rencontrez, c'est un membre de l'Église du Dieu vivant. C'est pas une secte, c'est pas un mouvement religieux. C'est l'Église, la véritable, elle traverse les siècles. Elle traverse les siècles. Vous avez beau faire. On aurait 10 000 ans devant nous, ce que je ne pense pas. On a beaucoup, certainement beaucoup moins, eh bien l'Église continuerait à exister. De même que la parole de Dieu. La parole de Dieu ne cessera jamais. Elle sera toujours là. C'est quelque chose, vous savez. Et c'est merveilleux parce que c'est la puissance de Dieu. Vous avez. C'était un homme qui est la Corée était réputée pour être un pays impossible à évangéliser. Si quelqu'un, les étrangers étaient très très malvenus dans le 18e siècle. Et alors, un homme a décidé d'y aller quand même. Il a appris le coréen et même il a traduit la Bible en coréen, ou du moins des passages de la Bible en coréen. Et le bateau, il est arrivé donc avec un bateau, mais c'était impossible de mettre, il n'y avait pas de port. Donc ils l'ont fait monter dans une barque avec ses Bibles et ils l'ont laissé sur le rivage, ils sont partis. Et il a été attrapé par les gens et tué tout de suite. Voilà, c'est tout. Ça n'avait pas été plus loin. Seulement, les livres sont restés. Il y a des gens qui se sont convertis. Des années plus tard, quand le pays a été ouvert, il y avait des églises. Il y avait des églises. C'est comme cela. Il suffit d'apporter la parole de Dieu et l'église se crée tout de suite. Les gens ne connaissent pas le mode d'emploi, ils lisent la Bible, ce sont des gens qui n'ont pas d'arrière-plan, pas de préjugés, rien du tout, hein. Ils savent rien. Au contraire, ils ont des préjugés contre. Alors, quand ils ont la Bible, ils lisent et ils font vite la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et la période d'Israël et la période de l'Église. Et ils savent que l'Église est d'actualité et on crée une Église. C'est arrivé dans des multitudes d'endroits où les gens ont trouvé une Bible et l'ont lue. Et il est arrivé qu'une Église se construise. C'est des témoignages comme cela, je crois que ça serait très intéressant de les réunir, et de connaître leurs sources, parce que moi, ma source de cet homme qui est allé pour la Corée, je l'ai lu il y a bien bien longtemps et je ne sais même plus où ça se je l'ai lu. Mais bon, c'est pour ça que je le dis, que c'est je sais plus. Mais est-ce que c'est une histoire racontée ou mais si ce n'est pas vrai, c'est plus que probable et plus que possible, hein. C'est la puissance de la parole de Dieu quand elle est mise dans les mains de quelqu'un, d'un inconverti, qui la lit et un jour, il comprend. Voilà. Donc, ce que je vous ai donné, c'était dans ces deux versets, il y a des paroles très, très, très importantes. C'est pour ça que je vous les ai données, hein. Ce sont des paroles qui sont comme un roc. Le monde peut rugir, il peut dire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il paraît très puissant. Et Satan paraît très puissant. Mais c'est le plus puissant, c'est Dieu. Et c'est l'Église du Dieu vivant. Et un jour ou l'autre, c'est obligatoire, il va y avoir quelque chose. Dès qu'il y a la persécution, dès qu'il y a des tensions, eh bien les chrétiens se tournent davantage vers le Seigneur, ils vivent une vie plus droite, plus propre, plus nette. Et à ce moment-là, eh bien l'Église avance et grandit. Et c'est pour ça que dans les persécutions, il y a tellement de conversions. Et puis les gens, vers qui aller? Quelle est la solution de ce monde? Regardez le monde autour de vous. Il faut être complètement aveugle pour ne pas voir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on ajoute? On va changer de vêtements encore une fois? On va avoir. Je me rappelle, il y avait un homme. Qui avait une petite fortune, il avait dans sa penderie 50 costumes. Non mais attendez, 50 costumes, il y avait la chemise, la cravate, le tout. Et c'était des. Si aujourd'hui il voulait s'habiller d'une certaine manière, eh bien il avait tout qui était là. Il n'y avait pas seulement le costume, mais ce n'était pas un costume acheté 50. Et alors je vous dirais, pourquoi pas 51? Pourquoi 50? Pourquoi pas 49? 50. Pourquoi 50? Parce que c'est la moitié de 100. Ben, il n'a qu'à faire un effort, il arrivera à 100. Il achète le double et c'est tout. Le problème, c'est que ces costumes 50, il va être démodé, hein, parce que ça se démode très vite, ces trucs-là. Voilà, Il y a une satisfaction de pouvoir regarder sa penderie et de raconter 50 cousins. Et je ne vous ai pas parlé d'une dame. Hein. C'est un bon monsieur qui était comme ça. Donc, hein, les dames, vous êtes sauves. Hein. C'est pas vous qui avez la folie des vêtements. Mais c'est le problème est là. C'est que quand vous avez 5 voitures, alors la sixième, quand c'est vous l'achetez? Et elle va vous faire quoi de plus? Et la cinquième maison, ou le truc, machin, chose, le troisième voyage que vous allez faire dans cette année. Elle vient de commencer. Si vous avez fait déjà 3 voyages, vous n'avez pas eu le temps de faire autre chose. Mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a un problème, un vrai problème dans ce monde, parce qu'on essaye de nous faire croire que plus on a de choses, et plus on est heureux. On n'est pas heureux avec la matière. La matière ne rend pas heureux. Parce que si la matière apportait un bonheur quelconque, le vrai, hein, un vrai bonheur, eh bien, on n'aurait pas besoin de 50 costumes. Le premier suffirait. Deuxième, troisième. On serait comblé. Mais si on a 50, c'est qu'il y a un problème. C'est que, justement, il y en a trop pour que ça soit un argument en faveur du bonheur par les costumes. Ou par les voitures, ou par ceci et cela. Donc la matière ne rend pas heureux. Vous avez des gens je me rappelle d'une dame, elle discutait avec une autre dame, elle faisait la vaisselle au camping. Bon, moi j'avais mes chiens, donc les gens faisaient pas trop attention à moi. Et alors elle discutait et tout ça, et il y en a une qui dit, oui, mais le premier million, c'est toujours celui qui est le plus difficile à gagner. Après, les autres viennent tout seuls. Ah oui. C'était des millions de francs, c'était pas des millions d'euros. Mais je me dis, vous en avez un, vous allez ajouter un deuxième, et vous allez ajouter un troisième, et un dixième, et un millième, et vous aurez 1 milliard. Ça va faire quoi dans votre vie? Ça rend pas heureux. Sinon, on arrêterait avant. C'est le problème. Quand on est né de nouveau, on est membre de l'Église. Et il y a dans la communion fraternelle un bonheur et une joie que l'on ne connaît pas ailleurs. On rencontre des personnes qui sont nos vrais frères et nos vraies sœurs. Vous pouvez avoir de la famille selon la chair et ne pas avoir les liens que vous avez avec les frères et les sœurs de votre Église. Il y a des frères et des sœurs qui sont très loin, qui ne partagent pas du tout nos idées, et qui sont même jaloux ou qui parlent mal de nous dans notre dos. Bon, ça ne veut pas dire que dans l'Église, ça n'arrive pas, hein. Je ne veux pas non plus penser que... Mais il y a une possibilité de changement. Il y a une possibilité d'être différent dans l'Église. L'Église a une puissance extraordinaire. Nous ne nous rendons pas compte de la puissance de l'Église. Chez les Albigeois, les pasteurs étaient appelés des barbes. Alors, ce n'est pas parce qu'ils avaient des barbes, ils devaient en avoir probablement, mais ce n'est pas pour cette raison-là. Parce que barbe voulait dire oncle. C'est en provençal, en patois, vieux, vieux patois, ça veut dire un oncle, une barbe. Donc peut-être parce qu'ils avaient des barbes aussi. Hein. Mais je crois que tous les hommes avaient des barbes à cette époque. Mais c'est parce que c'est dans la famille chrétienne. Un oncle, c'est une personne rassurante. Parce que en un hiver, on pouvait perdre son père et sa mère. Une grave maladie arrivait, et c'est arrivé. On perdait ses parents. Et on était tout seul. Et qui prenait soin des enfants? L'oncle. Alors l'oncle, eh bien, c'était une personne rassurante. C'était un second père. On savait que si jamais il y avait un problème, c'est lui qui nous prendrait en charge. Et donc, dans l'Église, nous avons, hein, ça c'est un point suivant, dans l'Église, nous avons une famille spirituelle, où nous avons des frères et des sœurs, ça on connaît le terme. Mais on a des pères et des mères. On a des oncles et des tantes. Des personnes qui nous prennent en charge, qui sont capables de nous aider et qui veulent nous aider. et qui ont nos intérêts à cœur plus que nous-mêmes parfois, hein. Et puis, on a des grands-pères et des grands-mères aussi. Vous avez toute la famille spirituelle. Et c'est quelque chose de très important de savoir que nous avons une famille spirituelle. L'Église, c'est un autre aspect, c'est une famille. Nous sommes des frères et des sœurs. Alors c'est vrai que par rapport à Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu, donc nous sommes tous des frères et des sœurs. Mais c'est vrai que dans la manière de faire et d'agir, eh bien, on est soit des pères, soit des mères, des enfants ou des personnes âgées. Et quand vous regardez, vous lisez dans la Bible certaines expressions, vous verrez que c'est le Paul disait, hein, c'est qu'il avait été comme un père vis-à-vis d'eux. Des Thessaloniciens, et comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Vous avez d'autres passages hein, où il est question de ces liens. Hein. Quand vous auriez plusieurs maîtres en Christ, vous n'avez qu'un seul père. Hein. Il dit que mon enfant dans la foi que j'ai engendré dans les chaînes. Vous avez donc des expressions qui parlent de famille. Et c'est vrai que nous pouvons nous rendre compte que nous avons une famille chrétienne. Et c'est une joie de se retrouver entre frères et sœurs et de prendre plaisir à cette famille. Je me rappelle d'une jeune fille, elle ne connaissait pas son père et sa mère. Parce que quand elle était bébé, sa mère l'a mise, ce qu'on appelait aujourd'hui ce qu'on appelait l'assistance publique. Je ne sais pas si ça existe toujours, hein, mais les parents pouvaient se débarrasser d'un enfant et le mettre là et en oublier. Et je me rappelle de même d'un autre, un frère qui aussi était dans cette situation-là. Il avait été casé dans une famille c'était vraiment un esclave, hein, dans cette famille. Il faisait tout, 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 tout. C'était dans une ferme. Et il faisait beaucoup de travail, il n'était pas payé et il était placé. Voilà. Tout allait bien, il avait à manger, il avait des vêtements. Mais quand il rentrait de l'école, c'était pas pour travailler, étudier, c'était pour aller s'occuper des bêtes et des choses. Hein. Bon, bref. Quand ces personnes-là se sont converties, elles ont trouvé une famille. Elles ont eu une famille. Alors là, il y avait des frères et des sœurs, il y avait des pères et des mères, et des oncles et des tantes, et des grands-pères et des grands-mères. Et ils étaient accueillis comme un frère, et l'autre c'était une sœur, c'est vraiment accueilli avec joie, c'était un grand bonheur de les rencontrer. Et lui était devenu pasteur, hein. Le gars dont je parle, il s'est converti, donc il est devenu pasteur, il est dans une église à Paris. C'était dans le nord de Paris. Donc c'est quelque chose, vous savez, de savoir que dans une église, on a une famille et des personnes que l'on peut solliciter, avec lesquelles on peut parler, avec qui on peut confier nos problèmes et nos difficultés, ou nos joies et nos projets, parce que nous savons que ce sont des personnes de notre famille. Et notre famille, selon la chair, il y a des choses que l'on ne ferait pas. On ne dirait pas certaines choses. Voilà. Aussi, une autre chose que nous avons dans l'Église, c'est on peut avoir bon, j'ai touché un petit peu, mais si on a besoin d'un conseil, si on a besoin d'être aidé, d'être soutenu, eh bien, il y a les frères et les sœurs. Si on a besoin on dit j'ai un problème et j'aimerais bien que l'on prie pour moi, eh bien, ça fait partie de la communion fraternelle, ça fait partie du rôle de l'Église, de penser aux frères et sœurs, de prier pour eux, de les soutenir, de les aider, de penser à eux. Et même parfois, eh bien, un petit coup de téléphone ou une parole que l'on dit comme ça, qui encourage, qui fortifie. C'est l'Église. Il y a des personnes qui blessées par la vie et qui ont été très troublées. Et c'est dans l'Église qu'elles ont trouvé l'équilibre dont elles avaient besoin. Et c'est là qu'elles ont été soutenues et fortifiées, encouragées. Et aider vraiment. Je me rappelle d'une dame, elle avait une armoire à pharmacie remplie de médicaments pour ses nerfs, pour pas dire davantage. Et alors, un jour, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur. Et ses problèmes de nerfs allaient mieux, et de mieux en mieux, jusqu'au jour où elle a tout arrêté. C'est parce que dans l'Église, il y a un réconfort. Alors, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, hein, mais néanmoins, il y a quand même un réconfort dans l'Église. Il y a des personnes qui nous écoutent vraiment quand on a un problème, et avec une oreille non seulement attentive, mais remplie de compassion et d'amour. Ce n'est pas simplement que l'on a un esprit tolérant, mais avec beaucoup de compréhension et le désir d'aider. C'est le privilège que nous avons en tant que chrétiens de se retrouver ensemble et de pouvoir parler entre nous et de pouvoir dire. Alors, ça ne veut pas dire que nous avons le même contact avec tout le monde, mais néanmoins, il y a des personnes dans l'Église avec lesquelles nous avons un meilleur contact qu'avec d'autres. Et si nous avons un problème, une tension, une difficulté, eh bien, c'est avec cette personne-là qu'on partagera. C'est quelque chose de très très important. Et c'est même ce qui est recommandé dans la parole, hein. Il est dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, hein. Ce n'est pas, et puis Jean le répète dans son épître, hein, il dit, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous apporte, c'est un commandement ancien, parce que déjà il y avait toute sa vie qui était, dans sa jeunesse, c'est un commandement nouveau. Quand il était âgé, eh bien, c'était un commandement ancien. Et lui, il disait, oui, ben, mais c'est toujours nouveau, hein, c'est toujours le même. C'est aimez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et c'est plus facile de porter son fardeau quand on a d'autres personnes qui le portent avec nous. Et il y a des moments où on a besoin de dire à quelqu'un, simplement de dire, j'ai un problème. On n'a pas besoin parfois de s'étendre longuement sur le problème, mais simplement de dire, j'ai un problème. Et je ne sais pas trop bien quelle décision je dois prendre. Je suis un carrefour dans ma vie. Mais ça arrive à bien des jeunes, hein, ils arrivent, voilà, je dois prendre une orientation dans ma vie et je ne sais pas laquelle. Alors, c'est pas. J'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, l'occasion de parler, bon, c'est pas une adolescente, et elle me parlait de ses problèmes d'orientation et tout ça. Je lui dis, moi, je n'ai pas, comment dire, un vrai conseil à te donner d'orientation et te dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Je suis pas un prophète, pas devin, et je vais pas l'embarquer dans une direction qui est. J'aurais aucune possibilité de dire quoi que ce soit. Mais je lui ai donné quelques conseils, quelques pistes quand même. Et elle était rassurée qu'il y ait quelqu'un qui écoute, avec quelqu'un avec qui parler. Et ce sont des choses, ça pèse, et on a besoin de le dire à quelqu'un. Alors on ne le dit pas à tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles on a plus d'affinité qu'avec d'autres. Et c'est bien d'aller voir ces personnes et de dire, voilà, j'ai un problème. Et même c'est très conseillé. Parce que je vais vous dire quelque chose. Déjà d'avoir parlé du problème, il est déjà moins gros. Alors si une personne qui vous dit, vous avez un problème, quelque chose qui pèse, et elle vous dit c'est pas grave, alors c'est pas la bonne personne. Pour vous c'est grave. Peut-être que pour la personne c'est pas grave, le conseiller c'est pas grave, ou la personne à qui vous faites la confiance, mais bon. Donc on a dans l'Église beaucoup de privilèges et beaucoup de grâces. Hein. Dieu nous a accordé quelque chose d'immense, c'est l'Église. Nous nous retrouvons entre chrétiens. Ça, et c'est un corps. C'est un corps. Et ce qui est dit aussi, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'on arrive maintenant à la.